Après 12 ans de carrière, après avoir vécu les déceptions, on se dit, ben, je pense qu'il va y avoir quelque chose de plus positif. Une fois qu'on va les serrer pour de bon, les patins, mais il y avait des défis qui étaient encore plus incroyables qui m'attendaient. J'ai eu un fantasme de pouvoir revenir à la maison et d'être un bon père pour mon fils que j'avais presque pas vu. Finalement, pouvoir être un bon mari, bien, les choses ont tourné complètement différemment quand j'ai appris qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Dans un sens, j'étais encore une fois échangé. Mais là, c'est ma femme qui m'échangeait pour un autre. Un peu plus dur à prendre, ça.
Extrait d'un documentaire qui va être présenté à RDS. Celui que vous entendez, c'est Jocelyn Lemieux, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué pour 7 équipes au total.
7 équipes, 600 matchs dans la Ligue nationale. Et ce soir, durant les intermissions du match entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona, vous verrez ce documentaire présenté dans le cadre de la série 25 ans d'émotion. Et Jocelyn Lemieux est avec nous ce matin. Salut, Jocelyn.
Bon matin, messieurs.
Écoute, Jocelyn, tu racontes un peu ce qui retient l'attention dans le documentaire, c'est ce qui est arrivé après ta carrière. Tu as traversé toutes sortes de... D'abord, quel genre de bilan tu fais de ta carrière de joueur de hockey?
C'est intéressant parce que tu mentionnes 600 matchs, mais c'est presque 600 matchs. Et tu as été généreux, tu m'en as donné deux. Mais... j'ai joué la moitié, j'ai fait mon possible pour survivre l'autre moitié, si tu veux, j'en parle. Les choses ont bien été au tout début à Saint-Louis, les choses étaient bien parties. Ensuite, quelques mauvaises blessures ont fait que j'ai pris du retard. Des échanges, Chicago a été absolument extraordinaire comme expérience. Mais une fois qu'on a commencé à changer de code régional trop souvent, mais là, on tombe en mode survie. Chaque camp d'entraînement, c'est toujours la même histoire. Il faut se prouver. Il faut attendre son tour. Puis quand t'es pas un joueur clé sur une formation, bien des fois, on passe son tour. Et puis, c'est pour ça que je dis que j'ai joué la moitié et j'ai fait mon possible pour survivre l'autre moitié.
Tu calcules avoir fait combien d'argent durant ta carrière de joueur?
Honnêtement, j'ai jamais fait le calcul pour connaître le total. Ce que je retiens le plus dans tout ça, Alain, c'est que quand j'ai eu un contrat pour 500 à Hartford, ça c'était suite à une saison de 18 buts. Il y a très peu de gens qui vont réaliser que j'avais marqué 18 buts parce que c'est séparé en deux équipes. Donc 12 à Chicago et 6 à Hartford après mon arrivée là. J'ai eu un contrat qui était respectable à 500. Et puis par la suite, ben là, ça a descendu à 50 dans les mineurs parce que je me suis retrouvé agent libre, sans contrat, et j'ai pris la direction Long Beach pour aller jouer dans la Ligue internationale, espérant de pouvoir être signé par une équipe de la Ligue nationale, ce qui s'est produit à Phoenix, mais pour 350 au lieu de 500. Et c'est plutôt ça, moi, que je retiens.
Écoute, et là, ça commence, on a entendu l'extrait, là. Là, c'est le début de la débandade pour toi. Tu reviens à la maison, ta femme te quitte. Ensuite, tu vas perdre la moitié de l'argent que tu as amassé dans les bulles techno, là, la bulle techno qui a éclaté.
Et
l'autre moitié, tu vas la perdre en laissant aller ta maison dans la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Et là, tu n'as plus une scène, là.
Oui, effectivement, il y a eu un moment qu'il n'y en avait plus à sortir du compte de banque. Écoute, ça n'a pas toujours été horrible. J'ai connu de bons moments. À un moment donné, c'est que les choses allaient bien. J'étais représentant pour Oakley. Les ventes augmentaient, ça allait bien. Sauf que c'est des changements d'emploi qui ont fait que quand tu te retrouves sans réserve, quand tu es en mode de survie, bien, c'est le temps passé entre les deux emplois qui fait que tu viens vider tes comptes de banque, tu vas réhypothéquer ta maison, comme j'ai mentionné. Moi, je pensais que ma maison pourrait m'aider à survivre, donc on repasse à la banque, on sort un peu de comptant pour pouvoir survivre. Et puis là, ben c'est à un moment donné, en 2008, quand la maison a commencé à perdre sa valeur, ben là, c'est parce que la maison valait 40% de ce qu'elle avait déjà valu. Et puis là, ben une fois qu'on a réhypothéqué, ben on a des gros problèmes. Et c'est là que le fameux mode survie arrive. on n'arrive tout simplement plus à tout payer.
Et là, même l'essentiel, là, dans le documentaire, tu dis à un moment donné, je dois dire à mon fils, là, il n'y aura pas de lait aujourd'hui, on n'a pas d'argent.
Ben, c'est parce que quand tu tombes, quand tu trouves un nouvel emploi et tes commissions seulement, sans salaire de base, ben, les chèques sont attendus. Hein? On en parle beaucoup en ce moment du côté des États-Unis avec le gouvernement qui n'est pas capable de payer leur employés. Puis il y en a des gens qui en parlent beaucoup, hein? On entend parler beaucoup. Les gens qui ont simplement pas d'argent parce qu'eux attendaient le prochain chèque. Bien ça, je l'ai vécu. Et quand on est commission seulement, eh bien, souvent les chèques se font attendre. Et oui, effectivement, il y a des moments où il n'y en avait pas pour peut-être quelques journées. Et puis, je me souviens toujours de passer au guichet automatique avec mon fils, puis essayer de retirer un petit montant qu'il n'y en avait pas non plus, parce que le chèque n'avait pas été encore dégelé, si tu veux.
Et là, après ça, là, c'est l'étape là pour oublier tout ça, les pilules, l'alcool, tu te mets à consommer un paquet. Et c'est l'intervention de ta sœur, finalement, qui t'a sorti du pétrin, là, de cette spirale-là. Là.
Ben, la première fois que c'est devenu très évident qu'il y avait peut-être un problème, c'est l'autre qui est arrivé chez moi. Et lui, bien, un peu en moment de panique, a appelé le médecin de l'équipe. Puis, évidemment, moi, j'avais arrêté de jouer, mais l'autre jouait à Phoenix à cette époque-là. Donc, de là, la visite à l'hôpital pour me faire nettoyer l'estomac du surplus de médicaments que j'avais pris. Et puis, comme j'ai mentionné, le désir n'était pas d'en finir, mais le désir, c'était d'engourdir, d'arrêter d'avoir de la douleur. J'avais un problème de dos aussi. Souvent, quand le physique part, tu sais bien que quand le mental part, je veux dire, le physique va suivre. Et puis moi, ben, j'ai eu des problèmes d'adaptation à tout ça, mais à un moment donné, c'est que mon dos va causer de gros problèmes. Donc, le combiné des deux, manque de sommeil, problème de sommeil, insomnie, avec la douleur physique, fait que tu prends les mesures nécessaires pour essayer de dormir à un moment donné. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais oui, comme tu mentionnes, je venais régulièrement faire des visites au Québec avec mon fils. On s'amusait un petit peu. Puis là, ben, ma sœur a remarqué à un moment donné que j'en prenais un peu trop. Et délicatement, et je l'ai dit aussi dans le court-métrage, elle a choisi les bons mots et la bonne façon de passer le message que elle trouvait que c'était démesuré. Donc, elle m'a suggéré des choses plus naturelles, puis ça a été un bon réveil pour moi, parce que c'est vrai que quand on a plusieurs des exemples, entre autres, un ancien coéquipier à moi, Joe Murphy, on a bien vu où il est rendu, hein?
Ouais.
Un autre coéquipier à moi, Todd Ewing, qui s'est enlevé la vie. C'est des choses que moi m'ont frappé énormément parce que ce sont tous des joueurs qui ont eu les mêmes histoires, les mêmes problèmes de se retrouver, de s'identifier après la carrière. Puis effectivement, je pense qu'il y en a plusieurs qui cherchent des façons de pouvoir s'engourdir pour la douleur mentale et physique, parce que c'est les deux souvent. C'est quand ça devient les deux que ça devient impossible à contrôler.
Ouais, ben, écoute, Jocelyn, j'invite les gens à regarder ça ce soir lors des intermissions du hockey canadien Coyote de l'Arizona. C'est vraiment un très beau documentaire. Je sais que là, les gens vont dire que je souffle dans ma trompette, là. Mais l'équipe des 25 ans d'émotion a l'habitude de faire des reportages qui sont extraordinaires.
Ils ont, et je dois mentionner Philippe André qui m'a rencontré ici, qui est venu avec son équipe. Ont été absolument fantastiques. Pour ma sœur, de faire partie de ça, elle était très nerveuse, puis elle en est sortie ravie de l'expérience. Ils ont fait un travail exceptionnel, puis une chose que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils ont montré que des buts et non des bagarres de moi, parce qu'on sait très bien que les gens ont tendance de parler de mes bagarres quand ils parlent de ma carrière. Mais ils ont bien fait ça, ils ont trouvé quand même plusieurs beaux buts. Donc, je les remercie.
Merci beaucoup, Jocelyn.
La façon dont tu penses, c'est comme s'il avait cherché longtemps.
Quand même, je sais.
Et la bonne nouvelle, c'est que les choses se sont placées dans le cas de Jocelyn. Il est revenu au Québec et est là aujourd'hui.
Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est gentil.
Salut.
Au revoir. Jocelyn Lemieux. Eh oui, on voit ça. Non, mais écoutez, là, ils ont mis des beaux buts, tu sais, puis il y en a eu, tu sais, c'est comme... Un petit mot sur le tennis.
Oui, tennis, pour vous dire que c'est terminé pour Miloš Raonic. Il a été éliminé par Lucas Pouille, le Français, en ronde quart de finale. Une victoire en 4 matchs pour Pouille. C'est terminé également pour Serena Williams, éliminée en 3 manches par Carolina Pliskova. Et Eugénie Bouchard, elle a gagné, c'est à Newport Beach, son match de 2e tour. Ça a mal commencé pour elle, cependant, elle avait perdu la 1re manche 6-2 face à Kayla Day. Finalement, c'est Raplombé, remporte les 2 autres, 6-3 et 6-2. Et c'est le grand retour d'Alex Galchenyuk ce soir au Centre Bell.
On verra la réaction de la foule.
Oui, les joueurs du Canadien, dont Brendan Gallagher, sont convaincus. Et les gens vont l'accueil bien faire les choses. Bien,
l'accueil sera
de
bien. De la classe.
Et quand le match va commencer, là, il dit, vous pouvez commencer à le huer. Mais avant le match, on l'applaudit. Et à la première mise en jeu, là, on peut commencer à huer.
8h27. 40 secteurs de Repentigny. Juste un message ici, quand même, que je voudrais partager. C'est James qui m'écrit. Il dit, Paul, peux-tu dire à mon boss, Sylvain, que je risque d'arriver passer 8h30? Oui, il doit pas se rendre compte de la météo. Je suis parti de Saint-Jean à 6h45. Lundi, je suis arrivé à 9h10, puis j'ai mangé un char de... Ouais. Alors, mon Sylvain, James s'en vient.
C'est... Voilà. Comme il est 8h28, là...
Il va être en retard.